Voilà donc, bienvenue sur Radio Craponne pour un rendez-vous avec l'association Géotrup qui va vous proposer une conférence débat suivie d'un apéro partagé, ça c'est important. Jardin sol vivant par Gilles Domenech. Alors on va pas parler de football hein, parce que Domenech, ou de rugby, mais lui il va nous parler d'environnement et puis de jardinage. Donc c'est le mercredi 22 janvier, 20h, salle Association de la Grenette à Craponne. Comment jardiner en respectant au mieux la vie du sol? Peut-on cultiver sans travail mécanique du sol? Alors Jean-Marc, parlez-nous un petit peu de ça.
Alors il s'agit d'un cycle de conférences sur le cycle de la matière, où on aborde divers sujets qui concernent souvent soit la terre, soit les objets. Et ben voilà, Gilles nous a proposé une conférence pour nous parler du jardin sol vivant.
Très bien. Donc, on va écouter Gilles, finalement.
Bonjour.
Bonjour, Gilles. Alors, oui, on va parler de... Alors, peut-on cultiver sans travail mécanique du sol? On va voir apparemment qu'on peut. Mais juste avant, donc, vous m'avez dit que vous êtes dans l'environnement... Vous avez écrit des bouquins, alors ces bouquins, ils parlent de quoi?
Alors j'en ai écrit trois, effectivement. Donc le premier qui est sorti en 2007, ça commence à dater, c'était sur le BRF, donc le bois raméal fragmenté, c'est-à-dire l'amendement de sol à partir de branches broyées. Donc d'accord. Ça, c'est un peu mon point de départ. Ensuite, en 2015, j'en ai écrit un qui s'appelle Jardiner sur sol vivant, donc qui est complètement sur le thème d'accord. que l'on va aborder mercredi prochain. Et en 2022, j'ai sorti Un sol difficile et alors, aux éditions de Terrain. Donc là, c'est plus, voilà, plus observer le sol, savoir ce qu'il fait, qu'est-ce qui fait qu'il est difficile, parce qu'à la base, je suis pédologue. Un pédologue, c'est-à-dire un spécialiste des sols, comme tout le monde le sait. Voilà, donc, du coup, j'ai écrit ce livre-là. Et puis, bien sûr, mais si on constate qu'il y a des difficultés sur le sol, comment on gère? Et là, au mois de mars, doit sortir mon prochain livre qui est sur les engrais verts au jardin. Voilà. D'accord. Toujours avec les éditions de Terrain.
Alors là, vous allez expliquer, quand on dit sans travail mécanique, du tout, on ne parle même pas d'une bineuse, d'un truc comme ça.
Alors, c'est...
Moi, je ne suis pas un jardinier dans la main.
J'incite toujours à faire preuve de beaucoup de discernement. J'invite à aller vers moins, voire pas du tout de travail du sol, si jamais c'est pertinent, mais avec prudence. Hein, voilà. Si on se rend compte qu'on a besoin de travailler un peu le sol... Des fois, pourquoi pas une grelinette, un peu décompactée avec un croc, des choses comme ça. Alors effectivement, en général, j'évite le retournement du sol ou le motoculteur. Donc la bêche, en tout cas avec retournement, ou le motoculteur avec retournement, j'invite à éviter ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera à zéro travail du sol. Après, ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait. Voilà, et de ce qu'on fait et des conditions dans lesquelles on travaille. C'est vrai que typiquement, pour nous ici, à 900 mètres d'altitude, il fait froid, voilà. Il fait froid surtout aujourd'hui, il fait très froid. Mais bon, au printemps, il faut que les sols se réchauffent. C'est vrai que sur les mois de mars-avril, si on veut implanter des cultures, je conseille quand même un petit travail du sol là. Après, c'est vrai, tout ce qu'on va implanter sur le mois de mai-juin, on peut, s'il n'y a pas de problème de tassement du sol ou quoi, on peut tout à fait les implanter sans aucun travail du sol. Mais voilà, c'est toujours quand même à prendre avec prudence.
D'accord, alors bon... Alors moi j'entends toujours dire qu'au printemps tout le monde bêche.
Donc, tout à fait.
Donc c'est pas bien.
Alors c'est pas que c'est pas bien, mais c'est vrai que j'invite toujours à se demander pourquoi on fait les choses. Voilà.
D'accord. Hein,
voilà. Si je bêche, pourquoi? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est juste pour désherber que je bêche? Parce qu'en fait souvent c'est ça qui va inciter. On voit de l'herbe, tiens on ouais. bêche, et du coup il ouais. y a plus d'herbe pratique. Mais est-ce qu'on a forcément besoin de retourner complètement le sol pour désherber?
D'accord.
Pas forcément, il y a d'autres méthodes qui peuvent nous le permettre. Et donc voilà, donc c'est plus amené à se poser des questions sur les pratiques que l'on a, pourquoi je les fais et est-ce que j'ai vraiment besoin d'une intervention aussi violente, si j'ose dire, sur le sol.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire si on ne pêche pas?
Ah, il y a plein de possibilités, par exemple. Quelque chose que j'aime bien, moi, c'est si je pars d'un terrain enherbé, de... simplement mettre une bâche pendant l'hiver, hein, au mois de septembre ouais. jusqu'au mois de mai, et puis ensuite d'aller cultiver directement des pommes de terre, des choux, simplement enlever la bâche et puis aller cultiver directement là sans aucun travail du sol. On peut aussi faire ça de façon plus voilà, sans plastique si on préfère, hein. Si on est déjà au printemps, simplement par exemple, mettre des cartons sur le sol, rajouter de l'herbe coupée dessus et aller planter directement à travers les cartons. Alors, quand c'est des cultures repiquées, en tout cas, ça marche. Pour des tomates, pour des aubergines, je sais pas, pour des choux, ça peut marcher. Effectivement, c'est pour des semis de carottes, ce sera plus compliqué. Là, effectivement, dès qu'on a à faire un semis, on aura besoin souvent d'un minimum de travail du sol.
D'accord.
Mais voilà, après, il va falloir définir quel est ce minimum. C'est ce que je vais vous aider à faire dans cette conférence.
Ok. Oui, parce que c'est pour ça que vous avez... Alors, apparemment, d'après ce que vous dites, les sols sont vivants.
Tout à fait.
Voilà. Et c'est pour ça que... Alors, nous, on les maltraite.
Ben, plus ou moins, effectivement, plus ou moins. C'est sûr que le travail mécanique est une perturbation, clairement. Donc, alors, bien sûr, quand on parle de travail mécanique, si on passe un outil animé comme l'autoculteur ou si on bêche le sol, voilà, si on retourne complètement le sol, c'est une perturbation beaucoup plus importante que si on passe juste un outil à dents, hein, comme un croc, comme une grelinette, par exemple. Ouais. Hein. Voilà. Donc, ça aussi, la perturbation peut être variable. Mais même pour un outil donné, si par exemple on prend le motoculteur, que certes je le déconseille, mais si on passe un motoculteur sur un sol argileux en pleine période humide, on va faire beaucoup plus de dégâts que si on le passe quand il est à peu près sec, et encore plus si jamais c'est un sol un peu sableux ou quoi. Donc voilà, ça va aussi beaucoup dépendre des situations de sol et d'humidité du sol au moment du travail du sol.
Ouais, alors, ce qui paraît bizarre, d'après ce que vous dites, c'est quand même depuis des lustres, quand on regarde des reportages sur, il y a 300, 500 ans, déjà, les gens, ils servaient d'une charrue ou d'un...
Effectivement.
Ils faisaient une erreur, déjà.
Alors, la charrue, c'est pratique. Non, mais vous avez raison. La charrue, c'est pratique, effectivement. Notamment, si on a de l'herbe, voilà, on passe à charrue, on n'a plus d'herbe derrière, on peut affiner et semer. Donc, c'est pratique, effectivement. Mais ça n'empêche que, déjà, avec ce travail-là, on commence à déstructurer le sol. Et quand on le déstructure, si derrière il y a une grosse pluie, hein, on risque d'avoir par exemple de l'érosion, des choses comme ça. Donc on commence à avoir un impact négatif. Après, quand on parle de charrue, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Parce que il peut y avoir des charrues, voilà, il y a différents types de labours, certains sont plus destructeurs que d'autres. Et puis aussi, un charrue qui était une charrue tirée par des bœufs qui travaillaient le sol à 10-15 cm, c'est pas pareil, et qui avançait à 3-4 km/h. Ouais. C'est pas du tout la même chose qu'une charrue de 12 socs qui laboure à 30 ou 40 cm, tirée par un tracteur de 150 chevaux devant et qui avance à 15 km/h. C'est pas du tout les mêmes dégâts qu'on fait. Voilà. Donc, aussi, il faut relativiser.
Ouais,
donc, derrière le mot labour, il y a plein de réalités différentes.
Mais ça s'adresse plus aux jardins qu'aux agriculteurs, parce que pour les agriculteurs, on les voit tous labourer, hein, je n'en vois pas un qui...
Alors, oui et non, le labour quand même est en perte de vitesse aujourd'hui en France.
Ouais, quand même.
Oui, clairement. Hein. Clairement, est en perte de vitesse. Les gens ont tendance à travailler de moins en moins les sols. Pourquoi ? Bah, déjà, ça coûte cher de travailler les sols. Ça demande beaucoup de carburant. Hein. Ouais. Et puis, effectivement, il y a une prise de conscience sur le fait que ça participe à les déstructurer. Donc, si on peut... L'idée, ça va être ici de remplacer... pas forcément en totalité, mais au moins en partie, le travail du sol par le travail biologique, justement. Donc, par exemple, le travail des vers de terre. Mais pas que, hein, aussi le travail des champignons, des bactéries. D'accord. Il y a plein d'organismes qui vont justement travailler le sol et qui vont nous aider à avoir une structure de qualité dans laquelle on va pouvoir cultiver. Alors après... Vous dites que tout le monde laboure.
Non, alors, je vois autour de moi.
C'est vrai que c'est beaucoup plus visible au niveau des grandes cultures.
Oui.
Mais déjà, au niveau des grandes cultures, il y a quand même depuis une bonne trentaine, même 40 ans aujourd'hui en France, un mouvement qui va vers moins de travail du sol, voire plus du tout. Hein,
Il y en a certains qui...
Oui, il y en a depuis assez longtemps. Il y en a qui ont commencé dans les années 80 arrêter ça. Oui, donc c'est, même si c'était marginal à l'époque, c'est quand même pas tout à fait nouveau. Mais au niveau du maraîchage, par exemple, j'ai participé à la création en 2012. À partir de 2012, d'un réseau qu'on appelle maraîchage sur sol vivant, de maraîchers qui, pour certains, ont complètement arrêté le travail du sol.
D'accord.
Voilà. Alors, pour certains, ça va être le réduire. Hein. D'ailleurs, effectivement, je ne dis pas forcément qu'il faut l'arrêter. Voilà. Réduire, ça peut être... Mais il y a par ici, je connais des maraîchers qui travaillent peu leur sol, voilà, qui sont tout à fait dans cette logique-là.
Ok. Oui, donc, c'est un nouveau concept. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la terre, qu'on lui fait plein de misère. Donc, et on revient à des choses plus naturelles, quoi. C'est plus. C'est une étude que vous avez faite, vous. Enfin,
c'est ça, alors.
Dans votre cursus. Vous avez étudié les sols.
C'est ça, j'ai étudié les sols. Alors après, moi, je suis pas chercheur. Hein, j'ai fait des études j'ai travaillé avec des chercheurs, mais j'ai pas moi-même fait d'études scientifiques. Mais je me base effectivement sur plein d'études scientifiques pour aller dans ce sens de comment s'appuyer sur la vie des sols pour que les sols soient aérés, soient aptes à recevoir les cultures. Quoi.
Alors, bon, si je me trompe pas, il y a la permaculture. Non,
alors la permaculture,
que vous en pensez, vous?
La permaculture aujourd'hui, c'est un grand mot qui est très à la mode. Alors pour moi, c'est très bien, je pense. Il y a plein de concepts très très intéressants dans la permaculture, mais des fois, ce que je dis, c'est que ceux qui ont inventé la permaculture, c'est les Australiens. ils ont mis de la, ils ont mis de la théorie sur du bon sens paysan, en fait.
D'accord.
Voilà, donc c'est très pertinent. Et c'est pas non plus quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà, ça reprend.
Non, je dis pas que c'est nouveau.
Ça a été créé officiellement en 1978, mais en fait, ça s'appuie sur les connaissances des agriculteurs depuis des millénaires. Et une fois, j'ai entendu un truc intéressant. C'était, je crois, sur France Inter, je crois sur La Tête au Carré, ils interviewaient un chef d'un indien caraïbe et qui présentait aux journalistes son jardin. Et puis il dit, mais j'ai appris récemment que maintenant ma méthode de culture avait un nom et que ça s'appelle la permaculture.
Ouais, ben, on inventerait. Hein, la permaculture, c'est ce qu'on met quand on met un. Comment ça s'appelle quand on. Ça fait comme un petit dôme.
Alors, après, ça, c'est des techniques qu'on peut faire entrer dans la permaculture ou pas. Ouais. Donc, la permaculture, c'est vraiment une façon de gérer un espace, en fait. Un espace de culture ou même pas forcément de culture, puisqu'il y en a qui l'appliquent à la maison, à l'entreprise, voilà, à d'autres choses. Mais déjà, c'est parti, effectivement, plutôt de l'espace cultivé. Mais c'est quelque chose, c'est une manière de gérer un espace cultivé. Toute la logique qui est derrière, de comment disposer les choses, etc. Après, il y a plein de techniques agricoles qu'on peut mettre dedans. Certains y mettent des buts, pourquoi pas. Ouais. Moi, je ne suis pas forcément...
Là, on me disait... moi, tout ce que j'ai entendu, moi, j'y connais rien, hein, je peux vous dire. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a moins besoin d'arrosage quand c'est comme ça.
Alors,
c'est vrai ou pas, ça?
Alors, la butte, pas spécialement. Ouais. Par contre, effectivement, il y a plein de méthodes pour réduire le besoin en irrigation. Effectivement, le fait de mettre des paillages sur le sol, que ce soit à plat ou que ce soit en butte, peu importe, dès qu'on va mettre un paillage, on va réduire l'évaporation. C'est surtout vrai au printemps, en fait, quand les cultures sont peu développées, parce qu'elles couvrent peu le sol. Après, en été, quand les cultures sont très développées, l'évaporation se fait par les feuilles.
D'accord.
Donc, paillage ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Mais en début de saison de culture, c'est très, très intéressant, effectivement, de mettre un paillage. Alors, pas trop en début, parce que ça peut garder le froid, mais quand les sols sont réchauffés, ça va effectivement aider à garder l'eau, donc ça peut être très intéressant, tout à fait.
Donc, dans votre conférence, qui, je rappelle, aura lieu mercredi 22 janvier 20h à la Grenette, à la salle association. Vous allez expliquer tout ça,
c'est ça,
à l'auditoire.
Exactement, je vais expliquer déjà.
Alors, je pense que vous aurez des questions.
Certainement, il y a toujours des questions.
Il vaudrait mieux.
Oui, c'est... Voilà, je vais expliquer les grandes lignes du fonctionnement du sol. Ouais. Et puis ensuite, disons, ce que j'appelle les trois axes de réflexion sur les pratiques. Donc, la gestion du travail du sol, dont on a beaucoup parlé. Les apports organiques, donc entre autres les paillages, mais pas que. Et puis, la gestion de toutes les plantes qu'on va mettre pour la fertilité, donc ce qu'on appelle les engrais verts ou les couverts végétaux. Voilà, donc c'est un peu les trois grands axes que je vais développer.
Ouais, alors vous avez parlé des vers de terre.
Bien sûr, j'ai parlé
des vers. Qui sont très importants, apparemment.
Bien entendu.
Sauf sur les terrains de foot et les terrains de golf.
Effectivement.
Non, mais c'est vrai. Et puis bon, quand on pense aux sangliers aussi,
ah oui,
ils aiment ça. Hein. Donc eux, ils labourent.
Ah, okay. Et comment?
Non, mais ça traite de plaisanterie, c'est vrai. Mais oui, il y a plein de choses, c'est sûr. On voit là, il y a une remise en question quand même actuellement. Alors, on sait que le monde agricole change. Il y a de moins en moins de petits agriculteurs puisqu'ils disparaissent et c'est repris par des gros. Alors, on voit tellement du matériel qui me dépasse d'ailleurs, hein, parce que je suis pas dans le truc, mais ça va quand même être dur d'inverser la tendance, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
C'est assez curieux parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on est pris entre deux tendances. Et peut-être un pays comme les États-Unis c'est encore plus marqué que chez nous, où vraiment on a une tendance d'un côté à l'hyper-industrialisation, les fermes gigantesques, hyper mécanisées. Ouais. Et d'un autre côté, une agriculture paysanne qui ne veut pas mourir et qui se défend bec et ongle et qui attire aussi un nouveau public, ce qu'on appelle les néo-ruraux aussi, qui viennent le plus souvent pour faire une agriculture à petite échelle. Quoi.
Ouais.
Donc il y a vraiment deux tendances. Alors effectivement, est-ce que la tendance de défendre l'agriculture paysanne va réussir à résister au rouleau compresseur de l'agro-industrie? Je le souhaite vivement. Mais on voit que même dans un pays comme les États-Unis, ça existe toujours.
Ouais.
On voit que le côté énorme, énorme industrie, mais il y a aussi toujours ce côté-là. Donc ça arrive à cohabiter. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Je n'ai pas une boule de cristal, malheureusement.
Ouais. Ouais, j'avais vu un reportage, je ne me rappelle plus trop, où quelqu'un avait complètement changé son système. C'était un maraîcher. Hein, et finalement... il disait qu'il dépensait beaucoup moins et qu'il gagnait beaucoup plus.
Bien sûr.
Donc, finalement, c'était un bon...
Ah, mais c'est sûr que, en fait, le problème de l'agriculture industrielle à grande échelle, c'est que ça consomme énormément d'énergie et ça consomme énormément de produits. Donc, dans un monde où l'énergie devient de plus en plus rare, elle est il y a un problème de viabilité qui se pose.
Alors, on voit quand même une réaction des gens, parce que, bon, on a un gros marché à Craponne, ouais. Hein, c'est vrai. Et pourquoi il marche, ce marché, c'est le cas de le dire. C'est parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de petits producteurs.
Bien sûr.
Et les, on voit, enfin, moi j'ai eu fait. Bon, la mairie m'avait demandé de faire un micro-trottoir pour quoi les gens venaient au marché à Craponne aussi nombreux. Parce que c'est vrai que l'été, c'est une grosse foire, quoi. Hein. Je vais rencontrer des gens qui venaient un peu de partout. Ah, mais il dit, mais nous, on manquerait pas un marché à Craponne parce qu'on trouve des petits producteurs du produit. On sait que c'est du produit qui est sain, quoi. Qui est,
bien,
voilà.
Sûr. Bien sûr.
Et donc les gens peuvent faire changer peut-être un peu la, bien l'attitude sûr, bien sûr. Des. De cela, hein. Enfin, c'est mon idée.
Ah, bien sûr, non, mais c'est sûr que le public, les consommateurs, comme on dit aujourd'hui, ont un rôle très important à jouer, hein, bien sûr, là-dessus, complètement. Complètement.
Donc, vous expliquerez tout cela, je répète, le mercredi 22 janvier, 20h, salle des associations de la Grenette, à Craponne. Comment jardiner respectant au mieux la vie du sol, peut-on cultiver sans travail mécanique du sol? Vous faites partie de l'association Géotrupe, qui maintenant reçoit régulièrement, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus?
Je crois qu'on a dit l'essentiel là.
Ouais. Bah, venez nombreux voilà, pour ça, voilà. Poser des questions à poser.
Mais en tout cas, voilà. C'est...
Enfin, moi, j'y connais rien, hein, mais je suis pas jardinier dans l'âme, j'ai jamais été, mais j'ai des copains qui jardinent beaucoup. Et c'est vrai que peut-être ça peut les intéresser.
Voilà, oui, en tout cas. Et puis, bien sûr, on est là pour débattre et pour échanger. Voilà, on n'est absolument pas là pour créer un nouveau dogme. Hein, c'est vraiment, on est là pour échanger. Et donc, tout le monde est bienvenu, quoi. Quelles que soient les pratiques que vous mettez en place ou que vous souhaitez mettre en place.
C'est toujours intéressant de savoir qu'on peut faire autrement.
Bien sûr, ouais, bien sûr.
Très bien. Mais écoutez, merci.
Avec plaisir.
Donc, merci. Rendez-vous le 22 janvier. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Écoutez. Et puis, peut-être, nous, dans un. On peut se retrouver prochainement pour parler de vos bouquins. Hein.
Ah ben oui, avec plaisir.
Ouais. Ben, ça nous fait toujours plaisir. En plus, des gens du coin, je crois même que vos compagnes aussi en a écrit un. Donc on viendra la faire parler de son livre. Ben, merci à tous les trois d'être venus, même si elle n'a rien dit. C'est rare, hein, les femmes, ça parle beaucoup d'habitude. Non, je plaisante. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
Ouais,